le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du projet de loi québécois sur les discours haineux. Le thème du jour est inspiré d'un article écrit par Mathieu Boc-Côté intitulé « La nouvelle loi du cadenas ». Voici ce que Mathieu Boc-Côté a à nous dire sur le sujet. Depuis quelques mois, on a cessé de suivre les débats entourant le projet de loi 59, grâce auquel le gouvernement Couillard entend lutter contre les discours haineux. À tort, car nous sommes là devant une menace sans précédent pour la liberté d'expression. Plus loin, il dira dans cet article. Car sous le couvert de la lutte aux discours haineux, c'est à la liberté d'expression qu'on s'en prend. Mathieu Boc-Côté est en droit de se méfier de ce projet de loi, mesdames et messieurs, parce qu'il est flou quant à la teneur d'un discours haineux. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur trois éléments concernant ce projet de loi. Premièrement, il protège les individus et les groupes de subir les foudres des gens intolérants. L'article 1 de ce projet de loi nous dit « La présente loi a pour but d'établir des mesures de prévention et de lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. Elle s'applique aux discours haineux et aux discours incitant à la violence tenus ou diffusés publiquement et qui visent un groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12. Deuxièmement, quoique je suis d'accord avec les principes de l'article 1, je crois que tout se dit, mais une façon de le dire, dans une société civilisée, il est important qu'on puisse communiquer nos désaccords sans proférer des discours et des propos haineux. Ceci étant dit, le deuxième point que je veux apporter, c'est qu'il y a un flou par rapport aux protections privées. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une certaine part de cet auditoire qui sont des gens qui fréquentent des églises. Ce n'est pas la totalité d'entre vous, mais une certaine part. Maintenant, est-ce que le droit à l'égalité va faire en sorte qu'une église ne pourra plus éventuellement discriminer ses membres en fonction d'un comportement conforme à ses valeurs? Les églises ne visent pas la perfection de ses membres, mais la valorisation d'un mode de vie conforme aux attentes du Christ et des principes du Nouveau Testament. Tous sont les bienvenus aux activités de nos églises. Cependant, ceux qui prennent part aux décisions qui font avancer les projets d'église sont des gens qui adhèrent aux principes bibliques. Maintenant, si quelqu'un veut s'intégrer dans l'église, mais n'est pas d'accord avec les principes bibliques, pourrait-il arriver devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et dire « J'ai été maltraité, on m'a traité d'une manière haineuse parce qu'on m'a refusé de prendre part à des décisions sur tel et tel projet, parce que j'ai une vision différente de ses membres. » Est-ce qu'on peut en arriver là? La loi ne mentionne pas. Est-ce que ça va arriver demain matin si la loi passe? Je ne croirais pas. Est-ce que dans quelques années, on pourrait arriver là? Il est possible. Mais encore là, il y a un flou. Donc, à chaque fois qu'il y a un flou, il y a une ouverture possible. Je ne vous dis pas, mesdames et messieurs, que ça va se passer demain matin, mais je vous dis que c'est la prochaine étape. Maintenant, il y a un troisième point qui est important, c'est que toute critique peut se faire si c'est dans le but d'informer. Et ça, c'est conforme au principe du Nouveau Testament. Parce que même l'apôtre Pierre va dire qu'on doit répondre avec respect et douceur à quiconque nous demande les fondements de l'espérance de notre foi. Voici ce que nous dit l'article 2 de ce projet de loi. Il est interdit de tenir ou diffuser un discours visé à l'article 1. Mais ça veut dire un discours haineux ou qui incite à la violence. Je poursuis. Il est également interdit d'agir de manière à ce que de tels actes soient posés. Ces interdictions n'ont pas pour objet de limiter la diffusion du discours aux fins d'informations légitimes du public. Je le relis, mesdames et messieurs. Ces interdictions n'ont pas pour objet de limiter la diffusion du discours aux fins d'informations légitimes du public. En d'autres mots, la liberté d'expression est protégée par cet article de loi, exactement. Par contre, là où je suis d'accord avec Mathieu Bock-Côté, c'est que l'État ne doit pas s'ingérer dans le contrôle des idées. Ça, on se rejoint à 100 000 à l'heure là-dessus. Voici ce qu'il dit dans son article. « Nous n'avons pas besoin de contrôleurs idéologiques payés à temps plein pour surveiller les propos des uns et des autres. Donner des droits à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est en enlever aux citoyens. » Effectivement, mesdames et messieurs, le projet de loi donne des pouvoirs à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, notamment à l'article 8. Pas seulement à l'article 8, mais notamment à l'article 8. La Commission a l'intérêt pour demander à un tribunal la cessation de la tenue et de la diffusion d'un discours faisant l'objet d'une enquête. Ça, c'est l'article 8. En d'autres mots, si quelqu'un, selon l'article 8 ici, profère des propos haineux, quelqu'un le dénonce, il y a une enquête par rapport à ces propos-là, la Commission pourrait demander à cette personne-là de cesser toute activité publique ou toute communication envers ce groupe-là, parce qu'il est sous enquête. Maintenant, mettons tout ceci en contexte. Si cette loi était entrée en vigueur l'an dernier, est-ce que les communautés religieuses qui s'opposent à la pratique de l'homosexualité auraient pu dénoncer la coalition Avenir Québec qui s'acharnait contre elle lorsque cette coalition voulait leur enlever leur accréditation, leurs droits d'occupation et leurs avantages fiscaux? Ces mêmes personnes, est-ce qu'elles auraient pu également dénoncer le PQ qui voulait que ces communautés soient reconnues comme des groupes intégristes? C'est essentiellement ce qu'on retrouve dans cette motion déposée à l'Assemblée nationale par le PQ le 11 février 2015 à 15h04. Voici ce que le PQ a dit en chambre, mesdames et messieurs. Que l'Assemblée nationale affirme, à l'instar du rapport Bouchard-Taylor, que l'intégrisme est une interprétation littérale et monolithique des religions en vertu de laquelle ces dernières acquièrent une préséance absolue sur les autres considérations sociales, politiques, scientifiques et qui conduit à rejeter toute évolution. Qu'elle déclare que l'intégrisme religieux s'exprime le plus souvent par une atteinte au principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'aux droits fondamentaux des personnes homosexuelles. Qu'elles soutiennent que la pratique de l'intégrisme religieux a des impacts sur la collectivité et qu'elle ne peut se résumer à l'expression d'un choix personnel. Enfin, qu'elle rappelle l'urgence de documenter ce phénomène par un observatoire de l'intégrisme religieux. D'un côté, il y a des péquistes qui ne veulent pas que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse interfère dans les discours publics, mais on veut avoir un observatoire pour valider, pour s'assurer que les groupes religieux ne sont pas intégristes. On dirait qu'il y a deux poids, deux mesures ici. Mais il y a une chose qui est claire, mesdames et messieurs, c'est que les détracteurs de ce projet de loi sont unanimes. Ils craignent que s'ils parlent contre l'islam, ils seront poursuivis en justice par des groupes islamiques. Si la loi ne vise pas à bâillonner la liberté d'expression, pourquoi tolérerions-nous la haine? Ce qui est intéressant, c'est ce que nous révèle le mouvement laïque québécois. Voici ce qu'on peut y lire sur son site. L'article 296 du Code criminel interdit pour sa part le blasphème. 1. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans quiconque publie un libelle blasphématoire. 2. La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait. 3. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiquer dans un langage convenable une opinion sur un sujet religieux. Ainsi, le mouvement laïque québécois commente cet article 296 en disant ceci. Le troisième paragraphe semble faire une ouverture à l'expression d'opinions critiques sur des sujets religieux, mais elles doivent être faites dans un langage convenable. Mesdames et messieurs, le mouvement laïque québécois déplore qu'on doit critiquer les groupes religieux dans un langage convenable. Est-ce qu'on vit dans une société civilisée ou non? Il me semble que c'est la base, c'est le strict minimum. Si un groupe religieux théiste se mettait à parler dans un langage non convenable à un groupe religieux athéiste, je suis certain qu'il y aurait des mises en demeure qui seraient envoyées sur le champ. Mais écoutez bien ce que le MLQ dit sur son site. Je poursuis. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un langage convenable pour celui qui considère la critique ou l'opinion adverse comme un blasphème? Dans son dictionnaire philosophique, André Comte Sponville met les choses en ordre. Le blasphème fait partie des droits de l'homme, pas des bonnes manières. Fera-t-on des lois contre l'impolitesse? Le discours haineux religieux contre des groupes de personnes est donc permis, mais pas le discours haineux séculier contre un groupe religieux. C'est pas vrai, ça, mesdames et messieurs, que le discours haineux contre les groupes de personnes qui sont de foi, par exemple, athéistes, est permis. Non, c'est pas vrai, ça. Il n'y a personne qui va se laisser parler d'une manière inconvenable, spécialement pas sur la place publique. Mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'en ce moment, nous avons des protections. Et c'est le mouvement laïc québécois qui les dénonce. Ce mouvement-là n'aime pas que nous, les groupes religieux, disposions de protections légales. Par contre, ce n'est pas dans les cartons du mouvement laïc qu'on puisse les garder pour de bon. C'est effectivement la recommandation numéro 6 du mouvement laïc québécois. Voici ce qu'il nous dit sur son site. Que le gouvernement du Québec intervienne auprès du gouvernement canadien afin que soient abolis les articles 296 et 319.3.b du Code criminel portant respectivement sur l'interdit de blasphème et sur la protection du discours haineux religieux. Mesdames et messieurs, notre liberté dépend des lois. Si on laisse les individus et les groupes nous enlever des droits, nos institutions et nos rassemblements n'auront plus la même portée. Maintenant, le problème, c'est que le mouvement laïc québécois recommande d'abolir ces articles du Code criminel canadien qui dit en substance que quelqu'un ne pourrait être condamné pour avoir tenu un discours haineux si ce discours est vrai. Donc, il est important que les gens de foi et les citoyens de bonne foi puissent défendre à la fois la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté d'expression. Ces trois types de libertés ne doivent pas seulement être l'apanage des croyants de foi athéistes, mais qu'elles soient maintenues également chez les croyants de foi théistes. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Maintenant, puisque l'émission tire à sa fin, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!